Sommes-nous en train de passer d'un monde du travail classique à une société entièrement gouvernée par des plateformes et des algorithmes au risque de fragiliser la démocratie? Et que cachent vraiment les plateformes? C'est à ces questions et à bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Fabien Lemozy, docteur en sociologie, clinicien du travail et chercheur à l'Institut de psychodynamique du travail. Avant de laisser la parole à Fabien Lemozy, je vais me présenter. Je suis Peggy Charla, psychosociologue engagée dans l'accompagnement des pratiques professionnelles, individuelles et collectives. J'ai à cœur de faire émerger le travail vivant en lien avec les organisations de travail et les processus psychiques mobilisés dans la confrontation au réel. Je rejoins Lou Cressa et Denis dans ce podcast 0, merci à eux pour leur accueil. Fabien Lemozy, bonjour.
Bonjour.
Dans une société où les algorithmes occupent une place importante dans nos vies personnelles et professionnelles, vous avez réalisé avec Stéphane Lelay un travail de recherche pendant 7 ans sur les livreurs de plateformes et l'impact de ces activités sur les évolutions sociales et politiques qu'apporte l'introduction de technologies sophistiquées dans l'organisation du travail. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré à explorer ce sujet et pouvez-vous expliciter de quelle plateforme vous parlez ?
Alors, l'inspiration, c'est plutôt en premier lieu une immersion par nécessité et curiosité. C'était en 2017, à une époque où j'étais sans ressources. J'ai commencé à travailler comme livreur pour Deliveroo et Uber Eats. J'ai fait une enquête, c'est ma première enquête auprès de ces plateformes que je ne connaissais pas en fait. Je voyais mes étudiants qui faisaient ça, et équipaient leur matos, qui obéissent à une appli, dans la lignée un peu des Uber VTC. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Il y avait cette intuition que c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur. Et pas pour les bonnes raisons, et donc j'ai continué ces recherches par la suite avec Stéphane Lelay, qui avait également un intérêt pour les précarisations sociales, et donc nous avons fait cette recherche, continué ces recherches au sein de l'Institut de psychologie du travail, avec cette idée en tout cas que les livreurs sont une figure aussi d'avant-garde, tout comme l'étaient les VTC, les avant-postes d'une révolution sur le plan du management ou de l'organisation du travail, en tout cas on y viendra, mais avec l'arrivée du management algorithmique en fait. Et donc ce sont les plateformes dont je parle, ce sont donc, vous avez deviné, les plateformes comme Uber, Deliveroo, des plateformes qui en fait sont des infrastructures numériques qui définissent, qui organisent le travail en ayant recours d'une part à l'externalisation massive des travailleurs, de leurs outils de production et de leurs droits sociaux, et d'autre part, par le management algorithmique, une façon spécifique d'organiser le travail. Donc ce sont des organisations du travail, ce ne sont pas des intermédiaires, contrairement à ce qu'elles veulent faire véhiculer, notamment, ce ne sont pas des simples, la mise en relation comme pourrait l'être Airbnb par exemple, non, elles organisent quand même, elles définissent le service et les modalités d'exécution du travail.
Du coup, selon vous, quels sont les principaux impacts des plateformes sur le monde du travail et les relations sociales aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a trois points d'impact sur le monde du travail. Je pense que le premier, c'est la façon dont elles utilisent l'individualisation juridique via l'auto-entrepreneuriat ou le micro-entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est un modèle qui permet quand même aux entreprises de s'affranchir des protections durement conquises dans le cadre de la société salariale. Ils font des économies sur les cotisations sociales, il y a une absence de salaire minimum, il y a un évitement des régulations parce que les travailleurs échappent aussi aux dispositions du droit du travail concernant la durée légale, le suivi légal par la médecine du travail ou les instances représentatives du personnel. Il y a des modifications là-dessus, mais il y a en tout cas tout un contournement du droit du travail qui est possible avec la mobilisation de cet auto-entrepreneuriat qui a une visée de dénégation quand même du lien de subordination. C'est un point important et qui amène aussi à ce qu'on appelle une responsabilisation radicale en fait du travailleur, parce qu'il doit assumer seul la responsabilité de son destin économique en tant qu'acteur de marché. Et un certain nombre de transferts des coûts vont vers les individus, le coût de leur instrument de travail, de leur outil de travail, de leur entretien et de la maintenance de ces outils de travail, mais aussi de la gestion administrative en fait. C'est-à-dire qu'être entrepreneur, c'est faire tout un tas de tâches administratives qui ne sont pas qui sont pas payées par la plateforme. Le deuxième point, je pense que c'est consécutif au premier, c'est le deuxième impact sur le monde du travail, c'est la la précarisation massive, c'est-à-dire que l'auto-entrepreneuriat, c'est un mode de gestion du sous-emploi et du chômage, comme le rappelle la sociologue Sarah Abdelnour. Et donc, la précarisation est une ressource sur ces plateformes. Elles se nourrissent, en fait, de la précarité des travailleurs, des personnes. Et ce n'est pas un dysfonctionnement, mais c'est un levier de gestion, tout simplement. Voilà. La précarité est un levier de gestion. Elles se nourrissent de la précarité existante pour imposer des conditions de travail dégradées qui, sans ce besoin vital, en fait, de survie des travailleurs, ben, seraient inacceptables, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi ce qui explique l'évolution, en fait, des profils des livreurs qui se caractérisent par un glissement progressif d'une activité de niche qui était pratiquée par passion ou par des jeunes étudiants en complément de, voilà, en complément de leurs études, voilà, vers une forme quand même de tâcheronnat de survie massivement investie par les populations les plus vulnérables. C'est pour ça qu'on passe aussi d'une population de jeunes étudiants ou de salariés qui faisaient ça en complément à des populations qui sont plus issues des quartiers prioritaires de la ville et ensuite à des populations qui sont plus issues des travailleurs sans papier, voilà, des conditions encore plus vulnérables sur plan administratif ou social. Donc, c'est je pense, ce deuxième point, c'est celui qui a aussi un impact très important parce que, voilà, c'est le profil du livreur et, voilà, je dis, a changé et il y a quand même ce qu'on appelle une racialisation du capitalisme de plateforme. C'est des choses qui sont énoncées par des chercheuses comme Dalia Gebrial ou Sophie Bernard en France, où une surreprésentation des populations racisées parmi les travailleurs des plateformes. Et donc, c'est quand même des formes renouvelées d'exploitation de ces populations en particulier qui se jouent dans ce monde du travail. Le dernier impact que je pense important, c'est quand même la banalisation, je pense, du recours aux plateformes. C'est-à-dire que ça a pris, il y a un phénomène de banalisation parce que elles étaient parfois perçues comme marginales ou disruptives, ces plateformes. Mais en fait, il y a une accélération par le biais de la crise sanitaire de recours aux plateformes. Que ce soit par les entreprises et par les travailleurs eux-mêmes. C'est ça le paradoxe aussi. Beaucoup de travailleurs qui ont beaucoup plus cherché à travailler sur ces plateformes. Et surtout, c'est une banalisation aussi parce qu'il y a une extension à tous les secteurs d'activité. Donc ça veut dire que le modèle de la plateforme pénètre des métiers qualifiés, le management algorithmique s'étend désormais aux soins, aux ressources humaines, à l'enseignement supérieur, à la magistrature, retrouve dans le service à la personne, dans le bricolage avec les applis de jobbing, dans le travail numérique, dans la logistique évidemment, les missions de travail temporaires comme StaffMe, freelancer, voilà. Après. Donc voilà, ce sont des choses qu'on retrouve qui se sont largement étendues comme modèle, quoi.
Vous venez justement un peu d'évoquer la notion de management algorithmique que vous faites émerger dans votre ouvrage. Pourriez-vous le définir, ce management, et comment cela redéfinit-il la relation entre employeurs et travailleurs sur les plateformes qui serait différente des autres formes d'organisation?
Alors, la particularité du management algorithmique, je pense, consiste en fait à remplacer le contremaître, l'encadrant, le manager, toute forme d'autorité ou de management de proximité par des formes renouvelées de contrôle qui tiennent plutôt dans des lignes de code, par des algorithmes, par des calculs. Voilà, c'est du pilotage par les nombres et par les codes. Et donc, via une application numérique. Et donc, c'est pas tant l'utilisation d'un algorithme, enfin d'algorithmes, pardon, au pluriel, qui caractérise cette forme de management, pour moi, que plutôt la question de la substitution de l'activité managériale humaine par des procédures produites par les algorithmes. Vous voyez, c'est quand même le remplacer quelque chose de l'ordre du travail vivant du manager. Voilà. Je pense que c'est un point important. Et donc, un des premiers critères quand même pour définir ce management algorithmique, c'est l'usage de technologies informatisées visant à automatiser quand même des processus de décision et de contrôle via ce qu'on appelle l'appariement de données. Je pense que quand même le management algorithmique a pour objectif premier de cadrer l'activité et son flux. Hein. C'est un premier critère quand même, en tout cas. Voilà. Et je vous dis, ça remplace le travail vivant parce que typiquement, dans une entreprise de coursier, de livreur traditionnel, il y a quelqu'un qui faisait ce boulot de distribuer et de cadrer le flux. C'était ce qu'on appelle le contrôleur ou le dispatch. C'est lui qui évaluait comment allaient les coursiers au jour le jour et qui distribuait les courses et les circuits en fonction aussi de l'état. Donc il y avait tout un travail de care qui était fait, tout un travail d'attention qui était fait par le manager pour bien louer les courses, mais dont est incapable la machine, justement. Donc, ouais, je pense que c'est un point important. C'est le premier, donc, c'est le pilotage automatisé d'une activité. Le deuxième point qui définit aussi le management algorithmique, c'est quand même la délégation de l'évaluation managériale au client. Je pense que c'est aussi un point précieux pour comprendre ce qui se passe pour les livreurs dans leur vécu, parce que un des principaux atouts des plateformes est d'avoir rendu quand même les rating systems, les systèmes de notation, automatique et déterminant dans l'organisation du travail. Ils doivent participer à la logique d'évaluation dans le modèle. Vous le savez, les clients, ils ont la possibilité en fait d'attribuer une note sous forme de pouce, d'étoile, de like au service rendu par le livreur, et cette note est peu à peu devenue, c'était pas le cas au début, hein, elle est peu à peu devenue centrale en fait dans l'évaluation individualisée des performances, au point de sceller le destin du livreur sur la plateforme. C'est-à-dire que à elle seule, elle est capable de faire déconnecter, éjecter un livreur, voilà, de la plateforme, parce que ça ne va pas. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi d'assez intéressant. Il y a un livre qui est sorti là d'une artiste qui s'appelle Tatiana Itaïr, le livre s'intitule Uber Life, où elle vient, je vous le conseille vivement, parce qu'elle revient aussi sur le cas aussi qu'il y a des agressions et des harcèlements sexuels sur les livreurs et les livreuses des clients. Mais c'est typiquement l'expression quand même d'une relation de pouvoir. Voilà, qu'est-ce qui fait que ce processus soit visible également dans cette situation? Comment ça se fait qu'il y ait ce genre d'agissement dans le cadre du travail? Et la présence de personnes en situation de vulnérabilité sociale dans une organisation du travail qui ne les protège pas parce qu'elle ne veut pas, ou qu'elle n'en a pas les moyens, ou qu'elle n'en a pas les prérogatives, et dans laquelle elles ne peuvent pas se défendre leur dignité, parce que la dignité humaine, tout comme la privation de la santé, c'est pas le problème des plateformes, justement. Voilà. Donc vous voyez, il y a une sorte de non-prévention en fait de ce côté-là, qui n'est pas pensée par les plateformes, parce que ce n'est pas leur problème, et donc il y a des dérives qui peuvent s'inscrire dans la délégation du pouvoir managérial au client, notamment. Un autre point critère qui définit le management algorithmique, c'est la surveillance et la collecte de données en temps réel. Je pense que voilà, ça c'est l'algorithme assure quand même une sorte de surveillance, on pourrait parler de surveillance panoptique en fait, constante des travailleurs. Il y a une étroite surveillance du procès de travail et du travailleur avec la géolocalisation GPS, avec l'enregistrement des interactions. Et de manière générale, en fait, le management algorithmique procède à ce qu'on appelle une évaluation individualisée des performances, dans le sens où il enregistre un certain nombre de choses d'interactions ou d'actions sous la forme numérique pour évaluer et classer les livreurs, ce qui aussi est susceptible de déterminer leur possibilité de travailler sur la plateforme. Des taux d'acceptation, des taux de présence, des choses comme ça, de temps mis pour livrer une course, qui vont être enregistrés et qui vont participer à cette évaluation individualisée des performances pour faire des classements entre ces auto-entrepreneurs. Évidemment, c'est une autre caractéristique du management algorithmique, c'est que ce système, en fait, il est complètement opaque et asymétrique. Le management algorithmique fonctionne comme une boîte noire, en fait. Il y a de la rétention d'informations. Le livreur ne dispose que d'informations fragmentées qui sont distillées au fur et à mesure de l'acceptation de la commande, ce qui restreint aussi sa marge de manœuvre, finalement, en tant que travailleur. Et surtout, il y a des changements permanents, c'est-à-dire que les règles de fonctionnement, les tarifs, les critères de bonus, les possibilités de connexion sont modifiées unilatéralement et instantanément par la plateforme, ce qui plonge aussi le travailleur dans une incertitude constante. Le dernier point qui est très important, je pense, c'est le management algorithmique aussi. Il utilise beaucoup la simulation du jeu, en fait. Il y a quand même des techniques de ludicisation qui sont mises en place, par le management algorithmique, par les applications. C'est porteur d'un discours, en fait, dans lequel la rhétorique du jeu a une place importante, notamment pour éluder tout lien de subordination, en fait. Et donc, le jeu va servir à inciter, en fait, à travailler d'une certaine façon. Donc, ça va être des notifications, des nudges, qu'on appelle, c'est-à-dire des petits messages pour inciter, ou des défis, ou des quêtes. Voilà, vous voyez, des défis de « Ah, si vous faites 3 livraisons ce soir, vous avez 5 euros de bonus. » Donc, ça incite à se connecter, vous voyez. Donc, c'est des façons, toujours d'inciter au travail.
Vous parlez de déshumanisation, et la question qui me vient, ce serait en quoi les plateformes instaurent-elles de nouveaux rapports de domination, et notamment entre les travailleurs, les clients et les entreprises.
Je pense qu'il y a un point qui est assez important dans ce qui se passe, c'est dans la façon dont ça agence aussi les relations entre livreurs et clients, notamment. On voit que quand même il y a une déshumanisation du rapport de service. Voilà. Nous, on l'attrape avec le fait que le management algorithmique participe à une industrialisation du rapport de service, voilà, autour de la livraison de repas. Mais ça produit quand même une déshumanisation du rapport de service, parce que les livreurs, ils ont le sentiment de faire office finalement de sorte de room service pour des clients qui ne les voient plus comme des humains, quoi. C'est que la reconnaissance est remplacée par une simple visibilité sans considération sociale. Et autour de ça, il y a la question de la qualité du travail quand même. La question de la domination et de la déshumanisation passe par la question de la qualité du travail, aussi complètement disparue en fait dans ces nouvelles organisations du travail, où il y a une sorte de règne de la médiocrité servicielle. Il y a une substitution de la qualité par le calcul, en fait, où la recherche de la qualité est supplantée par une gestion purement quantitative et industrielle, en fait, de la relation de service. On cherche juste à faire de nombreuses courses et à produire du flux et pas à produire, voilà, de la qualité. Je pense qu'on le voit donc du coup avec cette question de l'industrialisation du service. Le rapport de service, il est découpé en micro-tâches standardisées, acceptation, validation, trajet, initiative humaine est remplacée finalement par la machine. Les livreurs accordent plus de primauté aux indicateurs que finalement à la qualité du travail. Et donc, ils sont indifférents à cette question du travail bien fait. Ils sont plus, préoccupés par ce qui se passe sur leur devenir pour se connecter à la plateforme et pour avoir un flux suffisant de commandes pour vivre, en fait. Ce qui est tout à fait logique vu les conditions dans lesquelles ils sont embauchés. Voilà, enfin, ils travaillent. Mais effectivement, ça nuit à la qualité du travail. Et on sait que la qualité du travail, c'est important aussi du point de vue de la santé, en fait. Donc, si ça disparaît, qu'est-ce qui reste à part ce rapport au flux, ce rapport à l'argent? Première étape aussi de déshumanisation. La deuxième, c'est quand même que il y a une réification du travailleur par la notation, ce que je disais dans la relation client, avec la déshumanisation qui passe aussi par la transformation du livreur en simple outil de livraison, et le client peut avertir, par exemple, la plateforme avec ses notations. Le livreur risquait de la déconnexion, et donc ça fait rentrer dans la relation de service de répression des affects quand même très fort pour les livreurs. Et avec dans nos enquêtes, les livreurs vont jusqu'à parler d'humiliation quand même, en disant que l'humiliation dans la livraison, c'est ancien, c'est une activité qui n'a pas de valeur, et alors que c'est faux. En fait, on voit que dans la littérature, il n'y a pas ce vécu d'humiliation, il est vraiment lié aussi. Il n'est pas lié à l'activité de livraison en tant que telle, il est lié à une organisation du travail qui fragilise en fait les livreurs en tout point, confère un pouvoir managérial discrétionnaire au client. Et donc, je pense que pour moi, c'est un point assez crucial, en tout cas le fait qu'il y ait une disparition de la qualité de travail et qu'il y ait une forme de déshumanisation qui s'ensuive dans les rapports entre les êtres humains. Parce que d'une part, que la plateforme, par la façon dont elle organise le travail, elle dit quelque chose de sa considération sur les êtres humains, mais aussi ce que ça change, ce que ça institue dans les rapports dans la société par ce type d'organisation du travail. Je trouve ça assez fort, en fait.
Et pour prolonger justement un petit peu ça, tout au long de votre ouvrage, vous évoquez une forme de contrainte par corps dans le travail via les plateformes. Comment celle-ci se manifeste-t-elle concrètement chez les travailleurs ?
En fait, je parle de contrainte par corps parce que ce qui va, les critères que j'ai énoncés pour parler du management algorithmique sont quand même des critères de discipline et d'autoritarisme. Voilà, c'est de manière très autoritaire de piloter le travail, de manager en fait les êtres humains. Alors on l'a vu qu'il y a un contrôle quand même panoptique permanent. L'algorithme fonctionne comme un dispositif de surveillance électronique, il y a une géolocalisation constante, il y a une évaluation quantitative du travail, il y a une discipline à distance, notamment en utilisant la menace de la désactivation du compte, vous voyez. Mais ce qui est le plus frappant, c'est à quel point le corps est soumis à une subordination temporelle extrême qu'on va qualifier, nous, avec Stéphane, astreinte perpétuelle, pour signifier le paradoxe de... Ils sont tout le temps connectés. En fait, ils travaillent énormément, les livreurs que nous avons rencontrés. C'est corroboré par le dernier rapport de l'INED qui s'appelle le rapport santé-course, où voilà, ils font état aussi du temps de travail qui est passé sur les plateformes par les livreurs, avec les rémunérations moyennes qui sont très basses, de l'ordre de 6 euros de l'heure. Pourquoi on parle de cette contrainte par corps? C'est parce qu'on se rend compte qu'il y a une astreinte perpétuelle, un investissement énorme sur la plateforme. Ils passent beaucoup de temps à travailler, ils travaillent 10, 12, 15 heures par jour, tous les jours, sans se reposer. Voilà, ça c'est un point déjà qui vient nous indiquer quelque chose de l'énergie qu'il faut, qu'ils mettent à travailler sur ces plateformes pour arriver à en vivre. Et donc, dans le cas des livreurs, s'imposer une cadence, s'imposer un rythme, s'accélérer, c'est aussi avoir la maîtrise symbolique d'une situation de travail qui est dominée par l'incertitude, en fait, socio-économique et la possibilité de stabiliser quelque chose du point de vue, en fait, de la santé et de l'économie, en fait. C'est aussi une façon de être présent sur la plateforme, c'est une façon de conjurer l'angoisse qui est provoquée par l'organisation du travail des plateformes. Et donc, nous, on a été frappés, en fait, par la massivité des atteintes du corps, parce que pour tenir sur ces plateformes, il faut adopter un fonctionnement où le corps est quand même soumis à des contraintes de rythmicité, de corvéabilité, de non-écoute de soi, qui sont très fortes. Donc, les travailleurs, ils ont peur, ils ont peur de pas assez travailler, ils s'épuisent et ils doivent avoir toute une symptomatologie, alors qu'ils passent par des troubles et des maladies en termes de santé physique. On relève des douleurs au coccyx, des douleurs dorsales, des douleurs au cou, des douleurs au scrotum et aux testicules, du sang dans les urines, des troubles érectiles. Donc, tout ce type de troubles-là qui sont énoncés, tout comme les crises hémorroïdaires ou les douleurs au niveau des reins, sont des maladies, des troubles qui sont liés au séant, en fait, à l'assise qu'il y a sur les vélos, en fait. Et ce sont des pathologies qui sont liées au fait qu'ils utilisent des vélos qui ne sont pas du tout adaptés à travailler de cette façon, en tout cas, à être utilisés aussi de manière intense, voilà. Il y a les douleurs dans les doigts, il y a les douleurs, dans les genoux, les infections fongiques récurrentes, les crampes, y compris nocturnes, les éruptions cutanées, les troubles du sommeil avec des insomnies, des fatigues. Et donc, beaucoup de troubles ou de maladies qui relèvent de l'épuisement, en fait, qui relèvent d'une forme d'épuisement. C'est des atteintes physiques qui peuvent être aussi létales, puisque selon les collectés données par Médecins du Monde, il y a entre 2019 et 2026, 23 livreurs qui sont décédés dans le cours de leur activité. Donc, on voit que la question de l'épuisement aussi, façon de travailler, pose des questions aussi sur la question de la mort au travail, simplement, de ces livreurs qui n'est pas du tout prévenu. Alors, c'est intéressant parce que, après, il y a tout un tas de techniques pour soulager les effets de ce rapport au travail sur le corps. Donc, on voit des livreurs qui mettent un morceau de carton, en fait, entre la veste et le torse pour se protéger les poumons, ou des livreurs qui vont mettre du coton entre leurs caleçons et leurs pantalons pour se protéger du contact avec la selle. Il y a des livreurs qui vont être plutôt dans la consommation de produits stimulants avec la cigarette, le Red Bull, la nourriture grasse, et des livreurs qui vont être aussi dans l'automédication parce qu'ils travaillent souvent malades en cas d'état grippal ou de douleurs articulaires. Ils vont prendre des doliprane, des fervex, des efferalgans, des aspirines, des baumes du tigre, de la poudre contre les éruptions qu'on a. Voilà. La contrainte par corps parce qu'il y a des troubles qui apparaissent, tout ça, et aussi par le fait qu'il faut développer des techniques pour essayer de tenir encore, et donc qui sont aussi dangereuses parce qu'on fait de l'automédication, parce qu'on continue à travailler des conditions qui ne vont pas du tout du côté de la santé. Donc c'est spécifique, en fait, on parle de contrainte par corps parce que c'est en voyant les effets que ça a sur le corps qu'on comprend aussi quel est ce type d'exploitation. Voilà.
Pour conclure, vous venez d'utiliser le terme d'exploitation et j'aurais voulu savoir en quoi diffère-t-elle des formes plus classiques d'exploitation que l'on connaît.
Alors, bien sûr, c'est ce que je disais aussi, c'est en voyant comment le corps est exploité qu'on peut comprendre pourquoi on peut parler d'exploitation. L'exploitation, elle se définit par la conjonction sur les plateformes de trois processus, c'est-à-dire l'accumulation de ressources pour la plateforme au détriment des travailleurs, l'exclusion de ces derniers des ressources stratégiques, les données, des capitaux, et l'appropriation unilatérale de leurs efforts de travail, de la façon dont ils sont intégrés à des questions de distribution. Donc, l'exploitation se distingue des formes industrielles ou servicielles classiques parce que il y a plusieurs ruptures majeures. On l'a dit, il y a quand même la substitution de l'autorité humaine par l'algorithme. Donc voilà, c'est un point important. Ça diffère du modèle classique. L'encadrement était assuré avant par des humains, par des contremaîtres, des chefs d'atelier, des managers. Il y a un déni de la subordination alors qu'il est clair. Et une externalisation totale des risques et des coûts, ce que je disais plus tôt aussi. On assiste à une sorte d'acharnement high-tech en cascade parce que l'exploitation prend des formes aussi illégales, comme la location de comptes. C'est-à-dire que nombreux de livreurs sans papier doivent louer des comptes pour travailler sur les plateformes. Et donc, ça crée des systèmes aussi d'exploitation de la part des personnes qui louent les comptes. Un point qui est amené par Antonio Casilli et que je pense qui est important, c'est que ce type d'exploitation passe aussi par la captation des données comme nouvelle plus-value. C'est-à-dire que chaque geste, trajet, interaction du travailleur est transformé en données numériques. C'est capté par la plateforme pour affiner l'algorithme et valoriser son capital financier. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le livreur, il ne produit pas qu'un service, il produit des données. Je pense que c'est un point très important parce que il produit des données de monétisation, c'est-à-dire que la plateforme enregistre les données qui sont produites par le livreur et elle peut les revendre, mais aussi ils utilisent des données qui ont des valeurs d'automatisation parce qu'il y a un traçage et ils finissent par entraîner l'algorithme et à optimiser l'algorithme avec la façon dont ils interagissent avec les algorithmes. Et ils ne sont pas payés pour ces données qu'ils produisent, vous voyez. Et donc, il y a toute une partie qui n'est pas assez mise en avant, à part par évidemment certains chercheurs, mais pas assez notamment par les syndicats ou par les représentants de livreurs, c'est qu'ils produisent une partie de leur travail et de produire des données. Et on le voit notamment à partir de l'analyse de l'activité dont je vous parlais plus tôt, disant mais c'est pas tant le service qui est important que le souci de montrer de bonnes données, d'avoir de bons chiffres. C'est un signe aussi pour montrer qu'une partie de l'activité en réalité est dirigée dans le digital labor. Voilà.
Fabien Lemozzi, merci.
Merci à vous.
C'est ainsi que s'achève notre épisode consacré au travail de plateforme. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire l'ouvrage de Fabien Lemozzi et Stéphane Lelay, Plateforme, la colonisation du travail et de la démocratie, paru aux éditions de l'Atelier en 2025. Ce livre est nominé parmi les finalistes du prix RH délivré par le CELSA, École des hautes études en sciences de l'information et de la communication, et le cabinet Syntec. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.